Voilà, Manon. Connaîtrais-tu une bonne auberge où je puisse écouter des troubadours mélangeant rap, rock et ritournelle de variété?
Ah non, monseigneur. Et je pense qu'il faudra encore attendre plusieurs siècles avant que pareil miracle ne se produise.
Zulu Radio.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. C'est la cinquième et la dernière de la saison de l'émission Musique et Politique. Vous en avez désormais l'habitude, on se retrouve une fois toutes les deux semaines pour évoquer des sujets à la fois politiques et citoyens. Alors aujourd'hui, la politique, même si elle va être présente, elle ne sera pas forcément représentée puisque nos invités ont eu un empêchement de dernière minute et nous ont donc abandonné tout. Mais bon, voilà, on va faire sans, du coup, puisque nous avons d'ores et déjà le plaisir d'accueillir l'équipe de Zozo habituelle qui m'accompagne. Alors, d'habitude, je commence par les hommes. Et bien, aujourd'hui, je vais commencer par la personne qui est à ma droite. Ça va, Cathy ?
Ça va très bien, et toi ?
Oui, bien, fort bien. Écoute, tranquillement. Salut, Mel.
Salut.
Tu vas bien, hein ?
Oui, ça va, et vous ?
Ça va fort bien aussi. Le Fred, il est là ?
Au top. Oh, t'as toujours là.
On t'entend pas, Fred.
Pardon, oui, il est là. Oui, et tout à fait. Oui, il est là, là, là.
Il faut parler dans un micro, Fred.
Pardon, je ne sais pas.
Et nous. Ah, mais pardon, je n'ai pas fait un coucou à Antoine, grâce à qui nous allons avoir un son optimal. Et qui n'a pas de micro, donc bah, il ne va pas parler. Hein.
Bah, oui, bien sûr.
Bah, oui, bien sûr. Et nous avons notre invité aujourd'hui, qu'on est ravis d'accueillir, une artiste colombienne. C'est Tess qui est avec nous. Comment
bonsoir,
tu vas ?
Bonsoir, bonsoir. Ça va très bien. Merci.
Merci à toi surtout d'avoir accepté notre invitation. Alors du coup aujourd'hui, écoute, tu vas jouer double rôle. D'abord le tien, puisqu'on va parler un petit peu, voilà, de ta, j'allais dire de ta carrière. On va se détendre, mais enfin de ta vie d'artiste. Voilà. Et puis ensuite, écoutez, aujourd'hui, nous allons avoir un sujet de débat qui est fort sympathique. Nous l'avons intitulé sport. Musique et lien social. Alors vous allez me dire, à la base, c'est quoi Tess ? Eh bien écoutez, vous allez comprendre ça d'ici quelques petites minutes. Juste après qu'on ait pris un petit peu de temps pour présenter donc notre invitée, Tess. Alors effectivement, même si tu es toute jeune, tu as déjà un petit peu de vécu quand même, hein, au niveau artistique et au niveau de la cohabitation avec les Uluberlus. Raconte-nous ça un petit peu.
Mais oui, j'ai commencé mes concerts à 8 ans. Et les Uluberlus, je crois que je les ai rencontrés vers l'âge de 12-13 ans, par là. C'est Fred Giscra qui m'a vu. Il m'a repéré, c'était, je sais pas, la fête des cerises, fête de la musique, je jouais à la mairie de Colombes. Il m'a vu. Et après, il m'a fait tourner dans plein de salles, des bonnes salles.
Ouais,
alors. Donc, je lui en suis très reconnaissante. C'est tout ce que je voulais dire.
Qu'est-ce que...
Bonsoir.
qu'est-ce que tu as eu l'occasion de faire avec les Ulus ? Un petit peu de lycéen déjà ?
Je l'avais fait, mais tout le groupe, on n'était pas des lycéens, il y avait mes parents dans le groupe. Alors c'était un peu dur de concourir, mais je l'ai fait quand même.
Ils font jeunes quand même tes parents.
Ah bon, merci.
Bah, si, quand même.
Si, quand ils même. Sont jeunes.
Bah oui, voilà ce que j'allais dire. Déjà, ils sont jeunes, effectivement, rien que dans leur tête. Et tu nous disais la dernière fois, puisque c'est pas la première fois que j'ai le plaisir de t'avoir en interview, tu nous disais la dernière fois que cette passion pour la musique, c'est vraiment eux qui te l'ont transmise, du coup.
Oui, ma mère, elle chante tout le temps. Oh, elle m'appelle d'ailleurs.
Ah, ben non, maman, désolée. Désolée.
Voilà. Elle me laissera un message en chanson. Elle chante tout le temps. Elle a fait partie d'un groupe. Elle faisait les chœurs. Le groupe s'appelait Nzella. Si vous voulez l'écouter sur YouTube, il n'y a pas de souci. Il y a tout leur album. Non, et mon père, il est batteur dans différents groupes de reggae.
D'accord. Bon. Alors, on va avoir le plaisir de découvrir un petit peu ce que tu fais dans quelques minutes. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes projets actuels ?
Mes projets, en ce moment, je prépare un clip.
Ouais.
Voilà, un clip avec sur une chanson où je chante en portugais. C'est un peu un son brésilien. Voilà, ça pourra être un futur son d'été, peut-être pour l'été prochain. J'espère pas qu'il sortira aussi tard, je sais pas.
Ça, tu sais, les rythmes brésiliens, ça passe bien l'hiver aussi. Hein. Ça nous rappelle que de temps en temps, il fait soleil.
C'est vrai.
C'est très important l'hiver à Paris surtout.
Mmh. Et donc, bah voilà. Ce sera un clip qui se fera en famille avec mes tatas.
D'accord.
Et donc voilà. Et puis j'ai fait des nouveaux sons pendant le confinement que j'enregistre actuellement.
Alors, c'est une question qu'on avait évoquée. Pour toi, le confinement, ça a été quoi ? Ça a été plutôt une période difficile parce qu'on ne peut pas jouer, on ne peut pas voir de concert, il n'y a pas trop d'activité musicale. Ou est-ce que ça a été une période justement qui t'a aidé pour te permettre peut-être de te poser un peu et du coup d'évoluer artistiquement ?
C'est pas faux ce que vous dites dans le sens où le fait de pas jouer, bah on se recentre un peu sur nous, sur notre façon de jouer, on travaille plus, on a plus de temps. J'avais du temps pour travailler ma guitare et écrire des chansons, donc c'est ce que j'ai fait.
Bon, par contre, comme je suis tout seul à parler, tu peux me dire tu quand même. Hein.
Pardon.
Voilà, je suis moins vieux que Fred Giscra, d'accord.
Mais t'es tellement nombreux à toi tout seul.
Ah, ben oui, disons qu'avant j'étais schizophrène, maintenant on va vachement mieux. Mais.
Non, je parlais de ce que les filles disent, mais.
Ah, oui, non. Ça, on avait dit qu'on n'en parlait pas, Fred. Bref. Bon. On va se recentrer un petit peu. C'est déjà, ça fait 5 minutes d'émission, ça part en vrille. Bravo, monsieur Giscra, ne vous félicite pas. Qu'est-ce que je veux dire ? On va peut-être écouter un petit morceau de test, justement, pour donner à nos auditeurs le plaisir de la découverte. Qu'est-ce qu'on écoute-t-il comme morceau ?
Je sais pas.
Ben, c'est toi qui décides.
Je propose qu'on aille du son le plus ancien. C'est I'm Gonna Tear. Que j'avais comment je me la raconte que j'avais enregistré une reprise en fait de Anne Peeble et c'est en version reggae et qui figure sur mon premier seul EP que j'avais fait avec les Ulus. L'EP s'appelle J'attends ta réponse et la chanson s'appelle I'm gonna tear.
You think you've got it.
Et c'était Tess à l'instant sur la Zulu Radio dans Musique et Politique avec le morceau I'm Gonna Tear. On va écouter maintenant notre camarade somnambule, Mr. Fred, et sa chronique.
La chronique du somnambule.
Moi, je ronronne.
Oui.
Mon cher buddy, je ronronne, tu sais pourquoi ?
Dis-moi.
Parce que ça me fait super plaisir d'accueillir Tess aujourd'hui. C'est vrai qu'on s'est connus quand elle était toute petite. Moi, j'étais déjà tout vieux. Bref. Et j'ai aussi, elle en parlait tout à l'heure, eu l'occasion de produire, enfin de poser sur la première compile des Zulu Berlus en 1992. Alors bon, il n'y en a pas beaucoup qui étaient nés. Les deux premiers morceaux d'Enzela, qui existent toujours. Donc je suis assez content. Et la compile s'appelait 120 rimes. Il y avait un jeune homme qui s'appelait Peter Brada, qui est devenu Pierre-Paul Jacques. Baïfal. Les Zulu Berlus aussi, version groupe. Et puis un groupe des Fossé Jean qui s'appelait Omessai, un petit groupe de Peura, voilà quoi. Voilà, voilà. Donc, on y va ?
Ah ben, quand tu veux, écoute.
J'ai le droit, d'accord. Alors, avant toute chose, mon cher buddy et chers camarades et camaradettes réunis ici ce soir, je voulais souhaiter une bonne petite retraite à Nicole Guetta, encore battue, qui nous aura bien saoulés avec son péténisme larvé depuis 20 ans. Sans paraphraser Vernon Sullivan, je voulais juste dire que les Zulus sont toujours là, Nicole. Hey, yo les modèles. C'est la chronique des vacances. Youpi ! Le monde d'avant en plus naze commence à pointer son nez. Plus de couvre-feu sanitaire, des concerts debout en jauge pleine, mais masqués à moins de 1000 et avec passe sanitaire non masqué au-delà. Je sais... C'est pas simple de comprendre quelque chose. Des élections d'importance, mais nanifiées par une abstention massive et une profondeur sans fond du débat politique. Ceci expliquant peut-être cela. On remarque une plantade absolue des sondages et autres chroniqueurs. Une nouvelle gifle à Macron au regard des résultats LREM et un coup de pelle à l'escalope purée du RN. On note en revanche un regain d'intelligence tardive de la gauche pour le deuxième tour avec des alliances. Voilà, on verra ce que ça va donner. Mais bon, c'est déjà bien, hein, et il faut le noter. Voilà, et c'est comme ça que certaines municipales ont été gagnées, faut pas oublier. Ceci dit, je pense à Colomb, hein, reste à pas déconner après, pour ne pas décevoir le client. Eh ouais, pas simple. Et puis l'euro est arrivé dans cette actualité. La France est qualifiée avec une belle équipe. Passé à genoux peut-être par moment, mais bon. De son côté, l'UEFA, qui ne fait pas de politique si ça ne lui rapporte pas de pognon, se montre incapable de sanctionner les hydrocéphales de tous bords en imposant clairement un nein à l'homophobie et au racisme. Définitivement, le journalisme et le politique sont à la science ce que la Hongrie est à l'Europe. Comme une envie d'envahir la Pologne, quoi. Allez. Par ailleurs, Bolloré rachète Europe 1, super, et se fait mettre à l'amende par Bezos et Amazon sur les droits de retransmission TV. Rigolo comme le gros capital se déchire pour gagner plus et nous bouffer le caviar sur le dos. Le monde d'avant, qu'on vous dit. Allez, à côté de ça, les gendarmes bretons se sont aussi distingués pour atteindre le niveau de connerie de leur petit ministre, détruisant avec acharnement à Redon le matos audio des toughers. On ne peut s'empêcher de penser au Berlin des années 30, où la peste brune, au pouvoir, érigeait des bûchers avec des livres subversifs, Brecht, Freud, Marx, Einstein, des gens non essentiels en somme, comme les musiciens et autres saltimbanques de nos jours. On détruit toujours les moyens d'éducation et de communication avant de s'attaquer aux personnes. C'est le bruit de la fureur et l'odeur du soufre. Chirac doit sûrement se peler une pomme en buvant une Corona à 6 pieds sous terre. Bref. Dernière chronique et dernière émission de musique et politique de la saison. La cinquième déjà. Élus et artistes locaux ont joué le jeu sur des sujets passionnants, pourvu que ça dure. Aujourd'hui, nous abordons le thème de sport et lien social, avec des invités que j'ai connus toute petite, mais en fait, sur les deux, il n'y en a qu'une, c'est pas grave, et qui ne sont pas encore finis à ce jour, bien heureusement. D'un commun accord avec moi-même, j'ajouterai sport, musique et lien social. Très subjectif, bien entendu, mais tellement évident pour un somnambule biberonné au sport dès son plus jeune âge, n'ayant depuis jamais lâché ni l'un ni l'autre de ses fondements. De l'élite à la masse, de l'amateur au pro et du jeu au nous, ces deux vecteurs d'intégration se ressemblent tellement. Même si évidemment des différences subsistent. Ils sont fin et moyen à la fois. Plaisir, création et performance d'un côté, éducation, structuration et valeur de l'autre. Ils remettent sur les bonnes voies, sauvent des vies, des cerveaux et des corps. Pourtant, qu'il s'agisse d'artistes ou de musiciens, le haut niveau, le vedettariat, l'exposition médiatique, le trop vite, trop haut, représentent l'accomplissement, le salaire de la sueur, mais aussi horreur et contradiction. Plus dure est la chute, trop souvent, quand on a touché les étoiles. On ne parle plus que de performance et d'argent. Tous les records doivent tomber.
pour intéresser le spectateur ou le supporter. La fin justifie les moyens jusqu'à briser les âmes et les valeurs. Les jeux du stade correspondent aussi au contrôle social. L'enivrement est à son comble pour les foules qui se transforment en meutes nationalistes, simplistes et violentes. Le sport, comme la musique de masse, en revanche, échappe à la marchandisation. Le collectif ressort et le jeu simple et magique reprend sa place. On ne revient pas de cet amour-là. Qu'il s'agisse de pratiques sportives ou instrumentales, la beauté demeure à la masse, tandis que l'excellence magnifique du geste unique et parfait sera toujours dépassée à un moment ou à un autre, finalement. Bientôt les vacances pour les Ulus également. Après une année dense en création et une sortie de confinement tout en concert, le 13 juillet verra notre dernier événement à Chatou avec deux groupes de qualité, Catastrophe et Hey Hey My My, suivi du désormais célèbre feu d'artifice du parc des impressionnistes. Et oui. Pour le reste, les productions de Vex, CD et vinyles sont à la fabrication, tandis que les crayons de couleur sont bien taillés pour l'assaut, afin de préparer une rentrée sous le signe des tournées, des lycéens en cavale et autres accompagnements. Bref, nous ne baissons jamais, jamais, jamais la garde. Ne lâchez rien, à vous les studios, mais surtout pas ceux d'Europe 1.
Une magnifique chronique. J'ai vraiment pensé, quand tu as cité Vernon Sullivan, que tu allais dire « Cher Nicole, les Ulus iront cracher sur ta tombe ».
C'est pas le mot « cracher » qui me venait à l'esprit en premier.
J'y ai vraiment cru, pour le coup. Bah non, mais c'était le titre de ce magnifique roman de Vernon Sullivan.
Yes.
Voilà. Qui, effectivement, nous rappelle qu'il y a encore du travail à faire. Et pourtant, il est sorti dans les années 30, me semble-t-il. Voilà, voilà. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans ta chronique. Du coup, c'est vrai que tu ouvres beaucoup de portes. Déjà, on va faire un petit tour de table pour réagir à cette chronique. Qu'est-ce qui t'a marqué, toi, dans ce qui a été dit, Tess ?
Non, il y avait beaucoup de choses. La plus importante, la politique, l'homophobie. J'ai tout oublié, dites-moi, j'ai une mémoire de poisson rouge. Mais j'ai famille. Écouté, hein.
Bah, après, alors, puisque tu parles de politique et d'homophobie, je pense que tu fais référence à ce qu'a dit Fred par rapport à la Hongrie et à la position absolument scandaleuse de l'UEFA qui a refusé d'illuminer le stade de Munich, tout un symbole, aux couleurs de l'arc-en-ciel en soutien à la communauté LGBT, puisque paraît-il que la FIFA ne fait pas de politique ni de religion. Comme tu l'as très bien dit, Fred, effectivement, ne fait pas de politique quand ça lui rapporte rien. Hein, voilà, la nuance était de mise et effectivement tu as bien fait de la faire. J'ai envie de te dire, l'UEFA finalement est à l'image de l'Europe, puisque l'UEFA signifie Union Européenne de Football, le A étant pour association. Pardon, excusez-moi. Mais quand même, pour le coup, j'ai envie de te dire, la réaction de l'UEFA est symptomatique finalement de la réaction de l'Europe, c'est-à-dire pas de réaction. Voilà, il n'y a pas grand-chose à en dire, puisque ça fait quand même des années qu'on pourrait les virer, les Hongrois, parce qu'ils sont quand même en accord avec absolument aucune des valeurs fondamentales, soi-disant, de l'Union européenne. Hein. Les droits de l'homme, le respect de l'égalité, le respect de la mixité, le respect des migrants. Voilà, bref. Viktor Orban a encore de beaux jours devant lui. Cathy, Mel, Antoine, vous voulez réagir ?
Alors moi, c'est plus sur le côté politique. Il y a une grande nouvelle, c'est enfin la mise à la retraite de Madame Guetta. Donc moi, ça me réjouit fortement. Par contre, ce qui ne me réjouit pas et qui me chagrine beaucoup, c'est le taux d'abstention. Et du coup, je trouve qu'on est vraiment dans une crise terrible. Donc voilà, c'est ce que je retiens un petit peu, plus après tout le reste au niveau du sport. Mais ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Mais voilà, moi, pour moi, c'est le départ et la mise à la retraite de Madame Guetta qui est une bonne nouvelle et une triste nouvelle, le taux d'abstention en France pour les élections départementales et régionales.
C'est effectivement, effectivement quand même un des grands enseignements à tirer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression que chaque parti politique préfère en retirer un bénéfice pour lui-même. La gauche se flatte d'avoir gardé les régions qu'elle possédait déjà. La droite estime avoir gagné ses élections. La République En Marche estime avoir sauvé les meubles. Le Rassemblement National est peut-être un des seuls partis qui parle de l'abstention, puisque ça les arrange bien. Et effectivement, on est quand même aujourd'hui dans une impasse démocratique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, plutôt que d'aller voter blanc ou d'aller voter pour des partis qui pourraient représenter une alternative, préfèrent rester chez eux ou aller à la pêche. Effectivement, ça pose un vrai souci. Et ça n'est pas sans nous rappeler la chronique qu'avait fait Mel à ce même micro il y a quelques semaines de cela. Tu veux rajouter quelque chose, Mel ?
Oui, plein de choses dans la chronique de Fred, comme toujours. C'était riche, très, très dense. Et moi, ce que je retiens de tout ça, c'est l'argent et le sport, ce qui est un gros problème aujourd'hui et qui fait que bah, souvent, en fait, la seule partie émergée de l'iceberg quand on est... pas sportif pour moi, comme moi. C'est un espèce de dégoût du sport parce qu'on voit que c'est juste du gros divertissement, plein de gens bien dégueulasses qui s'en mettent plein les poches. Et je pense que on communique pas assez sur les vraies valeurs du sport et qu'est-ce que ça peut nous apporter en tant que personne dans notre vie, en plus du côté bonne santé, bien-être et tout, enfin les valeurs qui sont des valeurs d'éthique liées au sport, de collectif, de solidarité, d'entraide, enfin voilà, toutes ces choses-là, du coup, pour moi, passent un peu à la trappe quand on n'est pas dedans, parce que on n'en voit que la partie entertainment qui est pas toujours très sexy, voilà.
Ah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Bah, écoute, je pense que tu as magnifiquement planté le décor pour le débat qu'on va avoir dans quelques minutes. Aussi, je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale. Puisqu'on a le plaisir d'avoir Tess avec nous, on va écouter un autre de tes morceaux. Tess, lequel tu as envie qu'on écoute, du coup ?
Je vous propose d'écouter un morceau écrit par Merlot, ancien chanteur de Baobab. Qu'il a composé et écrit et qui m'avait proposé d'interpréter. Et le morceau s'appelle « J'ai pas ».
J'ai pas grand-chose à moi, pas grand-chose qui me va, juste mon corps de déesse, mon appart, mes deux pièces. J'ai pas grand-chose qui me va, ma bouche, ma drôle de voix, mes deux yeux, mes deux chats et mes deux pétunias. C'est vrai, j'ai presque rien, mais j'ai un truc immense, ce tout petit truc de rien qui fait la différence. Et puis je tais-toi, je peux même dire que j'ai que ça, plein de petits trucs de rien que l'on met bout à bout. Je tais-toi, que j'ai que ça, plein de petits trucs de rien qui font un truc de fou. J'ai pas grand chose qui va, à peine ce qui pourra, deux cordes à ma guitare, deux yeux qui voient dans le noir, et un ou deux milliards de longs cheveux tout noirs. J'ai mes deux cuisses rondes pour faire le tour. 36 dents pour sourire, un grand cœur pour souffrir. J'ai presque rien pour plaire, mais je prends bien la lumière. C'est vrai, j'ai presque rien, mais j'ai un truc immense, ce tout petit truc de rien qui fait la différence. Puis je tais-toi, je peux même dire que j'ai que ça, plein de petits trucs de rien que l'on met bout à bout. Je tais-toi, je peux même dire que j'ai que ça, plein de petits trucs de rien qui font un truc de fou. Je tais-toi, je peux même dire que j'ai que ça, plein de petits trucs de rien que l'on met bout à bout.
Et c'était Tess à l'instant sur l'Azulu Radio avec un morceau qui s'appelle « J'ai pas ». C'est ça ? J'ai pas dit de bêtises ?
Non.
Magnifique. Parfait. Je parle sous votre contrôle. Donc, on va aborder maintenant le cœur du débat, le cœur de l'émission. Et quand on commence à s'approcher du cœur de l'émission, on laisse la parole à Cathy pour planter le décor.
Alors j'y vais. Même s'il n'y a pas d'invité politique, on va quand même poser le débat. Donc Fred et Mélanie ont déjà balayé toutes les valeurs contradictoires que peut porter le sport dans notre société. Alors moi j'ai juste envie de poser une petite question avec tous les sujets évoqués pour poser le débat. Du sport spectacle au sport bien-être, de l'agressivité au sens du collectif, du marketing effréné à la démocratisation des installations, du machisme à la mixité, comment trouver l'équilibre à Colombes ou ailleurs entre le sport de haut niveau et le sport de masse ? Ben ouais.
Ok. Eh ben, je pense que... Est-ce que le jongle, c'est du sport ?
Oui, tout à fait. Ouais. Ça, dépend faut... ça dépend à quel niveau tu le
pratiques. Il va falloir jongler. Hein. Ouais. Il faut jongler, effectivement. Absolument.
C'est vrai, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus long. Mais c'est pas grave. Tout est posé là. Le problème, c'est dans la vie, c'est d'échapper par moment, mais pas toujours aux choses manichéennes. Donc de pas classer les choses par couleur en général, le blanc et le noir, et d'apprendre, ouais, effectivement, qu'il y a d'autres voies. Mais de l'autre côté, faire effectivement attention, parce que on parlait de la Hongrie tout à l'heure. Moi, je pourrais parler de la Pologne. Moi, qui suis un immigré de la deuxième génération, n'est-ce pas? Donc voilà, où effectivement on constate des choses complètement abruties, où là il faut être vraiment manichéen avec ce genre de personnes, et l'UEFA comme l'Europe, tu l'as dit tout à l'heure, le problème est le même, Buddy, devrait être effectivement très manichéen par rapport à ça. Ceci dit, après, le sport de masse, sport d'élite, s'il n'y avait pas d'élite, il n'y aurait peut-être pas autant de masse, donc c'est ça le problème. Pour qu'il y ait de l'élite, il faut que ça rapporte de l'argent, pas seulement aux gens, parce que des fois ça rapporte pas de l'argent aux gens ou aux sportifs, mais surtout aux médias et par moments aux fédérations, etc. Faut pas l'oublier. Voilà. Donc tout ça, le parallèle moi que j'ai fait avec la musique, c'est qu'on dit ah ouais mais quand même la musique c'est quand même drogue, rock and roll et sexe. Ouais ok, mais le sport aussi. Donc faut voilà. Donc ça c'est il y a un parallèle qui est évident là-dedans. Ceci dit, on constate tout ça, on constate des dérives des sportifs de haut niveau, on constate aussi que ça soit des musiciens de haut niveau, on constate aussi par moments des difficultés, des sombreries. Je sais pas si ce mot existe, mais je vais l'employer quand même. Des sombrages.
Si ça existe.
Des sombrages.
Noir Désir a fait une belle chanson aux sombreries de la merde.
D'accord. Okay. Et justement, tu parles de Noir Désir, c'est marrant. Et au délire de gens où qui arrivent, je pense à Nirvana, Hendrix, qui se barrent complètement en vrille parce que trop de popularité ou pas assez, ou le sportif de haut niveau qui du jour au lendemain se trouve. Et la différence, c'est surtout la longueur de carrière. On peut être musicien de haut niveau à 80 piges. Sportif de haut niveau à 80 piges, j'ai jamais vu. Franchement,
ouais, même donc, Roger Federer, il le fait pas. Ouais, effectivement.
Même lui. Donc voilà. Et faire attention à ça. Ceci dit, ça c'est effectivement la partie immergée qu'il faut un peu sans lui tirer trop dessus, parce que c'est quand même des bonhommes qui ont travaillé toute leur vie pour en arriver là et etc. Que ça soit aidé par des substances chimiques ou pas, qui battent des trucs, enfin qui font des trucs mais monstrueux. Moi je pense au Tour de France par exemple, c'est dingue, et ça attire effectivement le chaland, le supporter que j'aime pas du tout. Le praticien, le petit praticien vers la connaissance effectivement d'un univers. Alors après cet univers, moi je l'ai vécu tout petit, ça te donne effectivement un fondement et une envie de, même sans la haute compétition, même sans l'argent, de te remettre en place. Enfin moi franchement ça m'a sauvé la vie. Pierre Poggiac a dit que la musique lui avait sauvé la vie. Moi je pense que le sport, enfin les deux, mais le sport m'a aussi sauvé la vie pour me donner une certaine vision du reste, des valeurs, de la lutte gentille, parce que c'est jamais la guerre le sport, il faut jamais que ça soit la guerre, il faut que ça soit un jeu qui soit mené à plusieurs mais avec une certaine détermination. Donc effectivement ce côté qu'on peut utiliser après dans la musique, mais qu'on peut utiliser dans ses études, qu'on peut utiliser partout, cette méthode qui va être donnée, je parle pas du fait de se dépasser ou de battre des records, mais d'essayer d'aller plus loin, de jouer avec soi-même et de, de, effectivement de se porter vers quelque chose qui de très bénéfique et avec des valeurs, les valeurs d'échange, les valeurs de connaissance des autres, parce que souvent c'est dans les clubs de sport aujourd'hui, c'est peut-être souvent pas à l'école qu'on rencontre des gens différents, mais souvent dans les clubs de sport. Donc ça, moi je trouve que c'est super, parce qu'on a l'impression depuis tout à l'heure de tirer sur une ambulance, mais quand même il y a cette masse, il y a cette éducation qui est faite grâce à ça, avec ce micro-milieu éducateur. Et en plus, comme la musique, c'est pour ça que j'ai fait le parallèle, c'est quand même le truc qui intéresse le plus les mômes aujourd'hui. Voilà, alors d'une façon ou d'une autre, certaines personnes vont trop vite être connues et vont déraper très vite dans la musique ou dans le sport, mais par contre d'autres vont en tirer un plaisir, une communication, un échange et autres. Donc c'est vraiment là, il faut pas être du tout manichéen. C'est pour ça que je suis pas très clair dans mon développement, mais bah, du début à celui-là, là effectivement il faut accepter les portes ouvertes. Le sport aide le reste, aide toutes tes faiblesses, c'est-à-dire que si tu te tiens en forme à peu près, bah tu vas pouvoir abuser ou tirer sur la corde par moment. Voilà, tu vois, ça va te permettre de tenir plus longtemps. C'est pas mal aussi, ça va te permettre effectivement de rencontrer des gens, encore une fois, complètement différents. Et moi, je voulais dire ça parce que effectivement, autant je ne suis pas supporter, autant je ne suis pas pour le sport blindé de thunes et pour l'achat, comme on parlait de Colombes, mais t'as dit Colombes ou ailleurs. Ouais. La politique d'une ville comme Levallois, par exemple, est exactement le contraire d'une politique comme celle de Colombes. L'idée, c'est de pas développer des comme dans certains clubs, peu importe la ville. Mais l'idée, c'est pas de créer des écoles. C'est ce qu'il faut faire, créer des écoles et prendre les mômes tout petits pour les faire monter peu à peu, les éduquer, leur donner du boulot, parce qu'on peut gagner sa vie en étant éducateur sportif. L'autre politique, c'est d'acheter des gens très connus et d'avoir des résultats. Voilà, ouais, mais alors, je m'arrête là.
Moi, je vais rebondir sur ce que tu dis, Fred, parce qu'il y a plusieurs points. D'abord, effectivement, on a tendance à vraiment en vouloir, ou en tout cas à trouver dégueulasse ce système qui permet d'abreuver financièrement des grands médias. Maintenant, des gamins qui veulent faire du foot quand ils sont petits, c'est parce qu'ils ont vu Cristiano Ronaldo, c'est parce qu'ils ont vu Antoine Griezmann.
Bien sûr.
Des gamins qui veulent faire du tennis, c'est parce qu'ils ont vu la finale Djokovic-Tsitsipas l'autre jour à Roland-Garros. Voilà, donc ça permet aussi, quelque part, de mettre des gamins, de les attirer vers le sport, comme le fait d'écouter un musicien qui leur plaît va leur donner envie de faire de la musique. De même, aujourd'hui, il y a des pays où clairement le sport est une des seules possibilités qui est laissée de sortir de la misère. Aux États-Unis, le fait d'être un sportif de génie te permet, en tout cas un sportif de talent, te permet d'accéder à l'université. En Afrique, ça te permet d'avoir une possibilité d'arriver en Europe sans avoir à traverser la Méditerranée sur un bateau qui menace de couler toutes les deux secondes. Donc, c'est vrai qu'effectivement, je suis d'accord avec toi, la vision manichéenne dans le sport, elle n'est pas forcément possible, puisqu'en fait, le sport se nourrit de la médiatisation et les médias se nourrissent du sport. Donc voilà, on a véritablement une espèce de pari gagnant-gagnant entre les deux. Maintenant, effectivement, ça amène à certains excès. Et moi, je voudrais qu'on revienne, puisque c'est notre objectif un petit peu de parler de politique, mais aussi d'en faire quelque chose de citoyen, de quelque chose qui serait bon. Vous avez utilisé le terme de masse, donc je vais reprendre, qui puisse rejaillir sur la masse un petit peu. Comment est-ce qu'on peut faire dans une ville comme Colombes ou ailleurs pour justement mettre en place quelque chose qui, à la fois, éduque, pousse à se dépasser, parce que le fait de pousser à se dépasser, ça fait partie des éléments importants de la vie, et qui en même temps prémunissent un petit peu contre cette espèce d'aspiration vers l'argent facile.
C'était toute la question, en fait, comment trouver l'équilibre entre les deux. C'est-à-dire alors, développer le sport de masse. J'étais pas du tout contre le sport de haut niveau, parce que justement, le sport de haut niveau est nécessaire, et les deux sont des vases communicants. C'est-à-dire qu'on a besoin du sport de masse pour faire de l'élite, et on a besoin de l'élite pour développer le sport de masse. Sauf qu'on se rend bien compte, à l'heure actuelle, que le sport de haut niveau, et alors il y a beaucoup de sportifs de haut niveau dans le football, dans d'autres disciplines, qui gagnent beaucoup d'argent. Mais et là-dessus, alors peut-être qu'au foot, c'est un petit peu trop développé. J'ai pas trop de questionnements, parce qu'ils sacrifient tellement leur vie à leur sport pour être au niveau où ils doivent être, que moi, j'ai pas de souci à ce qu'on les rémunère correctement. Par contre, on voit bien que le business a fait déraper les choses, qui s'est mis dedans, et que pour le coup, c'est là où les valeurs deviennent contradictoires. Parce que quand j'entends le sport vecteur d'ascenseur social, moi, ça me dérange un petit peu que ce soit quelque part, on puisse travailler en faisant éducateur sportif parce qu'on a une motivation, mais que par contre, on mette son gamin à faire du foot pour être sûr qu'il devienne un super joueur de foot et qu'il gagne des millions, c'est pas du tout la même chose et la même vision des choses. Et comment on trouve l'équilibre entre ces deux choses-là ?
Parce que le petit qui veut faire du foot, il veut pas juste ressembler à Cristiano Ronaldo, avoir la même coupe et avoir l'argent et la nana. Plutôt que de vraiment aimer le foot, c'est une bonne question.
Bah après, justement, tu peux nous parler, toi, de ton parcours. Parce que si je me suis bien renseigné, apparemment, tu as fait du sport, toi.
Moi, j'ai fait du basket au collège jusqu'au lycée, donc pendant quelques années. Et c'est vrai que bah, du coup, tu rencontres aussi d'autres personnes. Et dans le basket, bah, tu vas rencontrer des jeunes qui aiment le son américain, qui s'habillent un peu à l'américaine. Et donc, bah, y a une rencontre, du coup, entre le sport et la musique, tout se confond, quoi. Et bah, voilà, tu fais des rencontres.
Et qu'est-ce que ça t'a transmis, toi, comme valeur ou comme élément qui t'ont permis d'avancer dans ta vie, le fait d'avoir fait du sport comme ça ?
Il faut de la détermination. Il faut aussi beaucoup, même si le basket, c'est un sport collectif, il faut aussi beaucoup travailler soi-même. Parce que dans mon équipe, c'est vrai que c'était pas très sérieux du tout, hein, je balance, mais les filles, elles venaient pour ne pas rentrer à la maison. Et être entre copines, c'était pas sérieux du tout. Et du coup, s'il y a chacun qui se remet en question et qui travaille de son côté et qui fait correctement son job, et bah après, il y a une bonne union. On travaille mieux en collectif, quoi.
Ouais, mais c'est aussi important ce que tu dis, puisque le sport, ça doit aussi pouvoir rester un loisir, quelque chose que tu fais pour passer un moment agréable avec tes potes, sans forcément aller chercher tout de suite cette notion de performance absolument.
Je pense que ça dépend, et c'est comme dans la musique, quel est ton objectif ? Est-ce que tu veux en faire un loisir ? Si c'est un loisir, peut-être que tu vas moins te donner, en faire d'efforts. Et si tu veux peut-être que ce soit ton métier ou que vraiment ça te passionne, bah là tu vas y mettre plus toutes les chances de ton côté.
Ah ben forcément, il faut sacrifier énormément. Je voudrais parler de ça parce que c'était un témoignage qui m'avait beaucoup marqué il y a quelques années. C'était un ancien joueur de l'équipe de France qui a été champion du monde en 1998 et qui racontait que quand il était en centre de formation, donc en centre de formation on y rentre généralement à 14-15 ans, et il disait en fait, la question qui lui était posée c'est pourquoi les joueurs de foot ont autant de copines. Et en fait, il expliquait que ça, c'était vraiment un vrai souci, c'est-à-dire que les joueurs de foot ne vivent pas d'adolescence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils sont entre eux constamment, ils ne sortent que très peu, et quand ils sortent, ils ont envie de rentrer un petit peu voir leurs parents, qu'ils ont envie, effectivement, comme tous les adolescents, de rencontrer des filles, de sortir avec des filles, et qu'en fait, ils n'en ont jamais la possibilité parce que leurs éducateurs leur expliquent que non, ce soir, tu dois te coucher à 22h, demain matin, tu vas te lever à 7h, il y a entraînement, après, il y a les cours, après, il y a entraînement, après, il y a visionnage de vidéos. Mais c'est pas une vie qu'on leur donne à ces gens. Et il racontait, puisque lui avait eu la chance de jouer au Real de Madrid, il disait qu'au Real de Madrid, il y avait des gars qui amenaient, des pères qui amenaient leurs filles dans l'espoir qu'un joueur de foot du Real les remarque et qu'il y ait possiblement la possibilité de se taper un mec qui plus tard pouvait faire carrière. On en vient à du grand n'importe quoi.
Je voudrais rebondir sur ce que tu dis.
Parce qu'on parlait de rencontres, le sport c'est des rencontres entre jeunes, etc., etc. Mais c'est aussi des rencontres entre des animateurs, des éducateurs, des entraîneurs professionnels, etc., etc. Et comme d'habitude, encore une fois, ça peut se passer bien ou pas. Je parle de l'orientation, que ce soit le sport de haut niveau ou le sport de loisir, mais ouais. La rencontre, elle se fait pas uniquement avec les autochtones, enfin tes congénères, enfin les jeunes, mais elle se fait aussi avec une vision, une espèce de pas de modèle, mais de gens qui vont aussi t'inculquer quelques valeurs, te dire que effectivement les études c'est aussi important, qu'il faut pas se casser un tibia à 18 ans pour ne plus jamais pouvoir pratiquer à un moment ou à un autre, ou se vriller un genou parce qu'on s'entraîne trop. C'est des gens qui vont t'enrober, qui vont te montrer une certaine voie et autres. Et ça, c'est super important aussi. Et ça vient aussi, et ça a évolué. Moi, je parle notamment de la boxe, quoi, et notamment de la boxe anglaise, où effectivement, c'était un sport, comme tu disais tout à l'heure, où plein de gens de tous les pays pouvaient sortir de chez eux, réussir et gagner plein d'argent, etc., etc. Où effectivement, au bout d'un moment, pendant longtemps, ça a été une boucherie, même pour les plus jeunes, et où l'éducation, la formation d'éducateurs et la formation mise en place par les fédérations a fait que toutes ces dérives ont été un peu évitées. Donc ça fait partie de ça aussi, de la personne qui va être ton entraîneur, mais auquel tu vas pouvoir parler aussi pour lui dire ouais, mais là ça va pas, j'ai des galères à l'école, ou j'ai des galères, ça oui. se passe pas bien avec mes parents, nanani. Oui, tu vois, c'est vraiment aussi un micro-milieu éducateur oui. différent qui va s'ajouter à l'éducation nationale, au groupe de musique, aux salles de concert, aux parents. Enfin, tout ça va faire un mélange pas mal et peut-être plus équilibrant que si tu n'as qu'une vision de cloche, quoi. Enfin, qu'une vision, qu'elle soit éducation, qu'elle soit parentale, qu'elle soit musicale. Donc tout ça crée, à mon avis, une espèce d'équilibre qui plutôt intéressant. Voilà le truc, quoi. Donc, aussi, effectivement.
Moi, je voulais dire quelque chose parce que du coup, enfin, pour la plupart autour de la table, vous êtes des pratiquants, vous êtes des sportifs.
Moi, je suis que croyant.
En tout cas, je pense qu'il y a une majorité de personnes aussi ici depuis tout à l'heure qui débattent, qui sont plutôt des sportifs. Or, moi, je ne suis pas du tout sportive. J'ai fait, comme tout le monde, du sport à l'école. Et moi, il y a quelque chose qui fait que je pense que je n'ai jamais été sportive. Or, si on m'avait peut-être transmis les choses autrement, j'aurais peut-être pu l'être. Ça aurait peut-être pu m'intéresser. J'ai l'impression que moi, par exemple, à l'école, parce que c'est quand même par là qu'on a nos premières expériences avec le sport, c'est vraiment dans le milieu scolaire, avec les cours de sport obligatoires, tout ça, machin, l'éducation sportive. Et je pense qu'on m'a toujours, en fait, parlé de compétition, de détermination, de sport d'équipe. Et en fait, moi, il y a un truc qui me saute aux yeux, c'est que on m'a jamais amené à découvrir le sport par rapport au rapport au corps. Et ça, vraiment, ça m'interpelle parce que, enfin, je sais pas, moi aujourd'hui, avec en étant un peu plus âgée, pour moi, s'il y a quelque chose d'important dans le sport, c'est d'être à l'écoute de son corps, de comprendre comment il fonctionne, de savoir agir sur son corps, de pouvoir par le sport déverser sa colère, de pouvoir se déstresser. Et ces choses-là, en fait, qui sont pour moi des valeurs importantes du sport, c'est quelque chose dont on m'a jamais parlé. Et je pense que comme j'étais quelqu'un d'un peu, peut-être à l'époque, introverti, pas très à l'aise dans mon corps, dans mes baskets, qui avait pas très envie non plus de me battre parce que j'avais l'impression que je savais pas faire, et puis que du coup, bah, j'allais toujours rater, et que j'étais toujours la dernière en sport et tout, je pense que du coup, ça m'a donné aucune envie d'aller pratiquer une activité sportive. Parce que bah, pour moi, j'avais pas du tout envie de rentrer en compétition, de faire quelque chose où il fallait se battre pour être le meilleur ou se battre pour gagner avec ton équipe. Par contre, si on m'avait intéressé d'une autre manière en parlant de ce que ça aurait pu m'apporter en termes de bien-être par rapport à mon corps et de comment je pouvais agir sur moi, peut-être que ça m'aurait fait écho d'une manière différente. Ouais. Et ça, par exemple, dans ce qui est peut-être pas mis en avant du côté du sport en termes d'éducation, ça m'interpelle parce que pour moi, c'est une des choses les plus importantes, une des choses primordiales.
Ah, effectivement, je pense que tu soulèves un point intéressant. Je voudrais juste l'élargir un tout petit peu et je vais laisser rebondir. Mais la question aussi, c'est une question que tu as soulevée, Cathy, tout à l'heure. C'est la mixité au sein du sport. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que la plupart des profs ne sont pas beaucoup plus intéressés par une fille qui ferait 1m80 et qui est capable de faire du basket ou une fille qui va pouvoir faire du patinage artistique ? Est-ce que véritablement aujourd'hui, on peut parler de mixité au sein du sport, ce qui clairement à l'école aujourd'hui n'est pas le cas. On peut pas faire un lien avec ce que vient de dire Mel.
Si, tout à fait. C'est le problème, c'est la classification. C'est-à-dire que moi, quand j'étais petit, j'étais gros, tu vois, par exemple. Donc, t'as des choses que, alors, soit tu le prends, t'es introverti, etc., etc. Soit tu dis, attends, il va falloir que je fasse un truc pour me nourrir le cerveau, d'une part, et pour me nourrir le corps, de l'autre. Et puis arriver, effectivement, à cette espèce de lutte, parce que tout petit déjà, t'apprends dans les écoles de colons. Enfin, moi, il y a très très longtemps où faut éviter de tendre l'autre joue quand on t'a giflé la première, quoi, tu vois. Donc, oui. Il faut un peu se défendre quelque part. Donc ça, c'est une façon aussi de te connaître et de te faire travailler ton cerveau. Et c'est sûr que l'éducation nationale ou le sport à l'école, je vois bien les profs de PS, ils n'ont pas vraiment le temps de truc. Mis à part le fait de détecter telle ou telle fille ou tel ou tel garçon, effectivement, ils vont pas t'aider à réfléchir sur toi-même, à avoir une vision positive du sport, de l'évolution, même si t'as pas des résultats. Dément, mais ça on s'en fout un petit peu quoi. L'idée étant le bien-être, effectivement, ce qui s'est développé peu à peu après dans les années 90, où le sport a aidé les gens, je pense pas forcément au sport, mais au yoga, enfin, à la vision du corps, à l'épanouissement, ce qui n'était pas vraiment la chose, c'était plutôt la compétition qui était importante, notamment pour les profs de PS, bien entendu. C'est après, effectivement, quand on arrive dans des clubs ou autres, où on commence à toucher à toutes ces réflexions, la compétition demeure, parce que c'est un peu ce qui intéresse tout le monde, forcément, mais cette réflexion est vraiment posée. Donc voilà. Et je dirais pour connaître le corps, mais connaître aussi son cerveau, parce que le sport a l'avantage de créer sa propre drogue, de créer ta propre drogue, de te calmer, de te mettre un peu cool par moment, tu vois, si tu fais deux heures, effectivement, tu vas être un peu à l'ouest parce que tu vas créer ta propre endorphine, qui est une drogue super puissante, quoi, qu'on crée nous-mêmes, mais en étant cool, enfin, en étant en bonne santé, c'est ça qui est un peu paradoxal. On en parlait tout à l'heure des paradoxes. Alors effectivement, la mixité, après, c'est toujours... Je sais pas dans quel sens tu vois le truc, Buddy, hein, par rapport à ta question,
Moi, je vois le truc, si tu veux. On va être obligé de conclure, par contre. Ouais. Mais moi, je vois le truc, si tu veux, dans ce qu'explique Mel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense qu'aujourd'hui, les profs de PS, dans leur globalité, sont beaucoup plus centrés sur la performance. Et même les éducateurs sportifs, pour eux, il y a une espèce de carcan. C'est-à-dire, il y a les sports de filles, il y a les sports de mecs. Le fait qu'on n'est pas forcément toujours à l'aise. Et je ne parle pas du nombre croissant de scandales qui arrivent dans le sport avec des entraîneurs qui abusent des jeunes filles qu'on leur confie. Mais je pense qu'il y a un vrai, puisque Mélanie parlait de rapport au corps, je pense qu'il y a un vrai problème de formation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est formé à la compétition, on est formé à l'accroissement de la performance, mais quand on est éducateur sportif, souvent, on n'est pas formé à la psychologie d'un adolescent, du rapport au corps, du fait que le sport, c'est pas seulement la performance, c'est aussi une recherche d'un épanouissement. Et ça, je pense que c'est quand même un gros problème et qu'il y aurait quand même des petites réformes à faire au niveau des STAPS, notamment au niveau de la formation, parce que ça me paraît pas être quelque chose d'invincible, ça me paraît pas être un cercle vicieux totalement impossible à arrêter, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a véritablement nécessité de voir le sport autrement, y compris de la part des éducateurs.
Alors, si je peux me permettre, puisque je suis de formation éducateur sportif, si, on a une formation sur la psychologie, sur le rythme de l'enfant. En fait, c'est le pont, c'est la façon dont tu développes. Quand tu as une association sportive, tu dois aussi avoir des résultats. en compétition pour avoir des subventions. C'est toujours le fric et le rapport au fric, en fait, qui fait déraper les choses. Moi, j'ai été éducateur sportif en gym sportive, qui était un sport à maturité précoce, où j'étais dans le haut niveau, que j'ai arrêté très vite, parce que, en fait, comme il n'y avait pas d'aménagement scolaire, pour les gamins, pour arriver à un certain niveau, elles devaient faire 12 heures d'entraînement pour arriver à avoir des résultats en compétition, ce qui n'était pas du tout compatible avec le rythme scolaire. Donc c'était vraiment très compliqué. Et je suis revenue sur le loisir avec plaisir. Donc ils étaient tous contents dans le club, parce qu'il y a très peu d'éducateurs sportifs qui vont faire du loisir. Et là, j'y ai trouvé du plaisir en faisant en sorte que les mômes prennent du plaisir à pratiquer l'activité sportive. Tu vois, c'est juste là. Et c'est vrai que les associations et les clubs, ils sont aussi un petit peu pris à la gorge. Parce que pour avoir des financements, pour avoir des gens rémunérés et pour avoir des installations, bah quelque part, ils doivent donner des résultats. Mais comme les associations musicales.
Oui.
Mais ce que disait Mélanie aussi, c'était avant de découvrir le sport en club, où effectivement les éducateurs sont un peu plus formés, ont un peu plus de temps, etc. C'est que l'éducation nationale, moi je me souviens de mes, enfin comme tout le monde, des cours que je pouvais avoir au collège ou au lycée. Effectivement, c'était pas, on s'acharnait pas sur l'amour du corps ou la psychologie de tel ou tel élève, qu'on n'avait pas le temps, quoi. Donc on peut faire un peu plus sur le sport de masse en club. C'est difficile, effectivement, sur la personne qui va jamais en club et qui découvre son sport en éducation nationale au collège. C'est difficile de passer le cap quand ça se passe pas très bien, quoi. C'est ça que...
On devrait faire du taoïsme, ça apprend à connaître son corps, le qigong.
On va vous remercier, les enfants. On va écouter un dernier petit morceau de Tess avant de vous souhaiter de bonnes vacances et de se retrouver à la rentrée sur la Zulu Radio. Merci beaucoup, Tess, d'être venue avec nous.
Mais merci à vous.
Merci, Fred. Merci, Cathy. Merci Mel. Merci, Antoine. Merci, l'équipe. Et on se retrouve avec grand plaisir à la rentrée. On écoute un dernier morceau, Tess, qui s'appelle
Irmã, sœur en portugais.
Falar dessa menina que passa todos os dias pra minha rua. Já conhece? Não. Eu queria falar dessa moça. Não é jovem, tem 30. A juventude está na cabeça. Já sabe, jovem toda a vida será. Ai, moça jovem, queria ficar. Ser mãe não interessa. O mundo é demais grande pra ficar. E limpar a casa. Ela só olhar.
Zulu Radio.